Bonjour et bienvenue dans cette édition du 13-14. Au sommaire aujourd'hui, des conditions météo peu habituelles pour un mois d'avril. 20 départements placés en vigilance orange, neige et verglas. Nous ferons le point sur les régions touchées par la neige depuis ce matin. Une vague de froid qui inquiète les agriculteurs et les arboriculteurs alors qu'un épisode de gel, il y a tout juste un an, avait détruit une bonne partie des cultures françaises. Une bonne nouvelle par ce temps froid et neigeux, le prix de l'essence qui baisse à la pompe à partir de aujourd'hui et jusqu'au 31 juillet, entre 15 et 18 centimes de moins par litre. Dans l'actualité également, la guerre en Ukraine et l'évacuation des civils de Mariupol retardée une nouvelle fois. Il n'est pas certain, selon la Croix-Rouge, que l'évacuation puisse avoir lieu aujourd'hui. Et sur l'aspect militaire, pour la première fois, en 37 jours de guerre, l'armée ukrainienne aurait mené des frappes en territoire russe. Un dépôt de carburant était visé. Information encore au conditionnel, mais selon Moscou, cette attaque aura des conséquences sur les pourparlers, des pourparlers qui ont repris, annonce à l'instant, un négociateur russe. Dans ce journal également, la politique et la campagne à 9 jours du premier tour et le tirage au sort de la Coupe du Monde de football ce soir à Doha, au Qatar. À 13h30, nos invités, Édouard Durand et Nathalie Mathieu, coprésident et coprésidente de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles sur mineurs. On reviendra sur le rapport d'étape de cette commission pour protéger les mineurs. Nos invités répondront à vos questions 01 45 24 7000. Le vif de l'histoire consacré à l'écrivain américain Jack Kerouac et la Bretagne de ses origines qui le hantaient. Et au programme de c'est une chanson avec Frédéric Pommier, un candidat à l'Élysée qui évoque une chanson de Gérard Lenormand, Si j'étais président.
France Inter, le 13-14.
Nous sommes le 1er avril et il neige. La neige est vraiment là sur le nord du pays, mais aussi en Normandie, dans le Massif central. Des flocons également ce matin en Île-de-France. 20 départements placés en vigilance orange, neige et verglas. La circulation est notamment perturbée dans la Loire avec sur les hauteurs 15 à 20 centimètres de neige. Bonjour Rémi Brancato.
Bonjour.
Un début de printemps avec de la neige, ce n'est pas très habituel, mais cette neige touche aujourd'hui plusieurs régions.
Oui, par exemple au nord de Rouen avec un camion bloqué ce matin en travers de la chaussée sur l'autoroute A151. De la neige dans le bassin minier du Pas-de-Calais aussi. Circulation compliquée sur la rocade de Saint-Omer et spectacle peu commun un 1er avril pour Samuel Pécrot. Il gère un bar PMU à Longnes, une commune voisine de Saint-Omer.
C'est pas une blague, non? Ah non, c'est pas un poisson, non. Il y avait 5 à 10 cm de neige. Étant donné qu'on a eu une semaine de très beau temps la semaine dernière, c'est très surprenant aujourd'hui, oui. Il y a un peu moins de clients d'habitude. Les clients attendent un petit peu que ça se dégage quand même sur les trottoirs pour pouvoir circuler, oui.
Et les transports scolaires sont suspendus dans le Pas-de-Calais, tout comme dans la Loire et la Haute-Loire en Auvergne-Rhône-Alpes. Il a neigé 10 à 20 cm sur les monts du Pilat ou du Forêt autour de Saint-Étienne, avec des routes secondaires difficiles, explique Yves Dadol, le directeur des routes au département de la Loire.
Les conditions de circulation ont été perturbées. La difficulté dans ces cas-là, c'est si on a des gens qui ne sont pas équipés correctement et qui sont en difficulté. Ça bloque tout le trafic. C'est un épisode assez inhabituel par rapport à la période à laquelle il se produit. On est sur un des plus gros coups de neige de l'hiver qui vient de s'écouler quand même.
Un résultat ce matin, des poids lourds bloqués entre Saint-Étienne et le Puy-en-Velay sur la Nationale 88. Dans le Massif central, les chutes de neige s'annoncent encore plus importantes la nuit prochaine.
Rémi Brancato, merci. Et les prévisions météo complètes, bien sûr, en fin de journal. Et si la neige et les précipitations sont une bonne nouvelle pour les régions en France déjà menacée par la sécheresse. La vague de froid avec neige et gel des températures de moins 1 à moins 3 degrés la nuit prochaine et dans la nuit de samedi à dimanche inquiète les agriculteurs et les arboriculteurs alors qu'un épisode de gel, il y a tout juste un an, avait détruit une bonne partie des cultures françaises. Et par exemple, dans le Périgord, certains producteurs paniquent à l'idée de revivre un nouvel épisode de gel. Benjamin Marescassier est producteur de prunes. L'an dernier, il a perdu 70% de sa récolte à cause du gel. Sa récolte a pourtant été classée en catastrophe naturelle, mais il attend toujours d'être indemnisé. Perdre sa récolte une deuxième année consécutive serait pour lui une catastrophe. Anne Bonnemazou-Carrère s'est rendue dans ses vergers.
Sur 40 hectares, tout est blanc et jaune. Au sol, les pissenlits, sur les pruniers, les fleurs en pleine éclosion et autour, une nuée d'abeilles. Pour Benjamin, ce moment est crucial.
Aujourd'hui, les pruniers sont en pleine floraison. Donc c'est vrai qu'on est sur un moment un peu critique.
Un moment critique car au-delà de moins 2 degrés, la fleur brûle et aucune chance de voir se former une prune. Or ce week-end, on attend des températures avoisinant les moins 3 degrés. Alors Benjamin serre les poings. Revivre 2021 et la perte de 70% de sa production, il ne veut pas l'envisager.
Là, on est dans un verger où il y avait zéro pruneau. Je ne suis même pas passé récolter. Tout avait gelé à 100%, d'en bas jusqu'en haut, là, il n'y avait plus rien. Une deuxième année consécutive, ça va être très dur. Ça va être très dur. J'espère ne pas le vivre.
En attendant, Benjamin garde un œil inquiet sur son smartphone. En page d'accueil, un thermomètre. Il lui indique en temps réel les températures et les prévisions météo.
Anne Bonne-Mazoucarère de France Bleu Périgord. Et la bonne nouvelle de ce 1er avril, c'est la ristourne à la pompe de 15 à 18 centimes par litre pour contrer l'envolée des prix du carburant. Mélanie Kuzelevich s'est rendue ce matin dans une station près de Paris, une station service. Parole d'automobiliste, un automobiliste qui s'appelle Kevin et qui ne voulait pas rater ce premier jour de remise.
C'est pas grand chose, hein. Une goutte d'eau c'est rien, mais bon, on prend, hein. Franchement, c'est pas 15 centimes par litre qui va me permettre de partir en vacances en août. J'ai une femme, un enfant, c'est pas ce qui va nous permettre de mieux vivre.
Là, vous faites votre plein, sans plan 95 ?
C'est ça. Ça, c'est le prix 23 euros pour 3 barres d'essence déjà entamées. Donc c'est pas le plein. J'ai un petit réservoir, donc du coup, ça va pas coûter trop cher. Moi, je prends pas les transports en commun. C'est pour ça que je me suis acheté une hybride. Donc je fais électrique essence, donc j'ai engendré des coûts supplémentaires pour prendre une hybride, parce qu'avant j'étais full diesel, et du coup je fais un petit peu d'économie, mais bon, je roule chaque jour, et le travail c'est un petit peu loin, c'est pas trop desservi, donc du coup, voiture, je suis obligé.
Voilà, Kevin interrogé par Mélanie Kuzelevich, 4 mois de remise donc à la pompe jusqu'au 31 juillet, 18 centimes de remise sur le continent, 17 centimes en Corse où la TVA est de 13%, 15 centimes de remise en Outre-mer où il n'y a pas de TVA sur les produits pétroliers. Bonjour Fabien Cazon.
Bonjour.
Alors ce matin, vous avez enquêté pour savoir si le coup de pouce à la pompe était bien appliqué partout.
Oui, c'est ce qu'indiquent les remontées de prix en temps réel ce midi un peu partout dans France avec bien sûr des différence entre les prix en station et en supermarché. Disons que cela oscille entre 1,85€ du litre et 2€ pour le diesel, plutôt aux alentours d'1,80€ pour le sans-plomb 95. Ce sont les prix qu'on constate un peu partout, dans la Marne, dans le Finistère ou dans l'Aude. Dans les grandes agglomérations, c'est forcément plus cher. À Paris, les prix ont du mal à redescendre en dessous de 2€ le litre, quels que soient les carburants. Mais il semble bien qu'au niveau national, il y ait globalement une décrue qui correspond à la quinzaine de centimes d'euros de ristourne qui entre en vigueur aujourd'hui. Cette remise, elle durera donc 4 mois. Les stations-service nous disent ce midi s'attendre à un surplus d'affluence dans les prochains jours, notamment ce week-end. Un afflux de clients qui choisiront sans doute d'aller remplir rapidement leur réservoir de peur de voir la réduction de 15 centimes rattrapée par la hausse des prix si elle se poursuit dans les prochaines semaines.
Fabien Cazot, merci. La guerre en Ukraine avec cette question au 37e jour de combat, l'évacuation à Mariupol va-t-elle pouvoir avoir lieu? La Russie avait annoncé l'ouverture d'un couloir humanitaire dans cette ville assiégée du sud de l'Ukraine, un couloir vers la ville de Zaporijjia, un peu plus au nord. L'évacuation n'a pas débuté et selon le comité international de la Croix-Rouge, il n'est pas certain que l'évacuation prévue de civils puisse avoir lieu aujourd'hui. L'autre information de la matinée sur le terrain militaire, l'armée ukrainienne qui ces derniers jours progressait et annonçait même avoir repoussé les chars russes près de la ville de Kharkiv, eh bien ce matin, l'armée ukrainienne aurait conduit une attaque en territoire russe et visé un dépôt de carburant. Cible visée, le dépôt de pétrole de la ville de Belogorod, c'est dans l'ouest de la Russie. Bonjour Jean-Sébastien Soldaini.
Bonjour.
Une première attaque par des hélicoptères ukrainiens en territoire russe au bout de 37 jours de guerre.
Et si c'est confirmé, c'est assez audacieux car les deux hélicoptère filmé par des riverains aurait alors parcouru 80 km aller-retour dans l'espace aérien russe, un vol à très basse altitude qui leur aurait permis d'éviter la surveillance des radars. Et c'est justement au ras du sol qu'ils sont filmés en train de frapper ce dépôt de carburant à l'aube, faisant feu au moins à 3 reprises sur les imposantes cuves d'essence. L'explosion est immédiate, elle provoque l'incendie de 8 réservoirs. Ce qu'il faut noter, c'est que les autorités locales ont vite pris à leur compte la thèse d'une attaque ukrainienne. Une façon de l'accréditer, puisqu'il y a déjà eu 2 deux incidents de ce type depuis le début de la guerre, notamment l'explosion d'un dépôt de munitions, toujours dans cette ville de Belgorod, et que ces deux incidents restent toujours inexpliqués. En tout cas, cette frappe provoque déjà des remous au Kremlin, puisque le porte-parole de Vladimir Poutine se fait menaçant. Cela, dit-il, ne va pas créer les conditions appropriées pour la poursuite des négociations.
Jean-Sébastien Soleigny et les négociateurs russes annoncent que les pourparlers russo-ukrainiens ont repris ce matin par visioconférence. Plus de 4 millions d'Ukrainiens ont quitté le pays depuis le début de la guerre, il y a maintenant 5 semaines, et certains déjà reviennent. Ce n'est pas un mouvement massif, pas encore une tendance, mais les difficultés des Russes sur le terrain, on vient de le voir, et leur annonce de retrait à certains endroits et la résistance de l'armée ukrainienne créent pour certains exilés les conditions d'un retour. Thibault Lefebvre et Benjamin Thuo ont rencontré Lily, 18 ans, à la gare de Lviv, dans l'ouest du pays. Elle a traversé toute l'Europe et tout à l'heure, elle sera chez elle, à Zaporijja. C'est un peu plus de 200 km au nord de Mariupol. Reportage de nos envoyés spéciaux en Ukraine.
Lily tape frénétiquement sur le clavier de son téléphone. De l'autre côté de l'écran, des amis restés à Zaporijja et évidemment ravis de la retrouver.
Je suis heureuse parce que je reviens chez moi. J'aime ma ville, j'aime mes amis et je suis tellement heureuse.
Une joie communicative car après 3 semaines d'errance en Pologne, en Italie puis en Allemagne quelques jours, l'anniversaire de ses 18 ans célébré sur les routes de l'exil, Lily a décidé avec sa maman Nika, sa petite sœur Sefia et bien sûr son papa resté au pays, d'essayer de reprendre une vie normale.
Nous savions que nous allions rentrer un jour et ce jour est arrivé. Je sais que c'est dangereux. Notre ville n'est pas loin de Mariupol et les Russes tuent des gens. Mais mon pays et mon père, qui est à Zaporijja, me manquent. Les Ukrainiens veulent vraiment revenir. Beaucoup de gens que j'ai rencontrés m'ont dit la même chose. Certains venaient par exemple de Kharkiv, ils ont perdu leur maison. Et pourtant, il disait vouloir rentrer.
Les arrivées en gare de Lviv, en provenance de l'Est, sont toujours plus nombreuses que les départs, mais depuis maintenant plusieurs jours, les trains du retour ne circulent plus à vide.
Thibault Lefebvre et Benjamin Thuo, nos envoyés spéciaux en Ukraine. Et puis concernant maintenant le bras de fer Russie-Occident sur l'énergie, Vladimir Poutine a exigé le paiement des exportations de gaz russe en rouble, dès aujourd'hui. Les Européens veulent continuer à payer en euros. Les Allemands, très dépendants du gaz russe, expliquent que les fonds seront transférés, comme d'habitude, sur la Gazprom Bank, qui n'est pas frappée de sanctions. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour Frédéric.
Et Gazprom Bank fera la conversion en rouble, assure Berlin.
Oui, alors écoutez-moi bien quand même Frédéric, parce que c'est subtil. Partons du principe que j'achète du gaz à la Russie. Je payais jusqu'ici mon gaz russe en euros, par l'intermédiaire d'une banque française. Avec les sanctions occidentales, Vladimir Poutine, de son côté, a vu le cours du rouble s'effondrer, sa monnaie dévalorisée par le blocus bancaire, les sanctions contre la Russie. D'où cette idée du Kremlin d'imposer aux Occidentaux l'achat du gaz en rouble. Difficile d'imposer cette opération. Dans un premier temps, Vladimir Poutine signe un décret dès le 28 février. Ce décret impose à toutes les sociétés russes de convertir elles-mêmes les euros, les dollars encaissés en roubles. Mais les sociétés russes comme Gazprom ne jouent pas vraiment le jeu. Alors pour sauver le rouble, Vladimir Poutine signe un nouveau décret cette semaine pour imposer une double comptabilité. Cela veut dire que non, les Européens ou moi-même ne paierons pas directement en roubles le gaz acheté en Russie, mais que la Russie imposera à Gazprom Bank d'encaisser les euros pour ses achats de gaz et de les convertir immédiatement et dans leur intégralité en roubles. D'où ce cours du rouble que l'on voit maintenant repartir en flèche et qui remonte. Donc la stratégie de Vladimir Poutine a marché. À charge ensuite pour la banque de payer donc le fournisseur de gaz russe Gazprom en rouble. Alors certes, les Européens ne paieront pas eux-mêmes le gaz en rouble, on l'a bien compris, mais Vladimir Poutine tord le bras à la fois à Gazprom, aux Européens, en les obligeant indirectement à contourner eux-mêmes leurs propres sanctions, tout en affirmant donc en Europe que l'on continue à payer le gaz russe en euros.
Laurent Kramer, merci. L'actualité à l'étranger. En bref, le pape François a présenté ce matin ses excuses pour le drame des violences perpétrées pendant des décennies dans des pensionnats pour autochtones au Canada, gérés par l'Église. Le pape François a fait part de sa honte et de son indignation. Le pape François a dit qu'il souhaite se rendre au Canada fin juillet. L'actualité en France avec Arrêt sur audience, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec le procès des attentats du 13 novembre. Bonjour Sophie Parmentier.
Bonjour Frédéric.
En direct du palais de justice de l'île de la Cité à Paris, une semaine très dense devant la cour d'assises spéciale et parmi les faits marquants à retenir Sophie, l'audience d'aujourd'hui montrait ou non l'horreur au procès des attentats du 13 novembre. L'audience doit débuter avec la diffusion de photos et d'un enregistrement audio, Sophie, pris au Bataclan le soir du 13 novembre.
Exactement, et cette audience n'a pas encore commencé. En tout cas, la salle est comble. Il y a énormément de victimes avec un cordon rouge autour du cou. Des victimes qu'on n'avait pas vues pour beaucoup depuis leur témoignage dans les premières semaines du procès et qui sont venues aujourd'hui pour voir ces images du massacre au Bataclan, images qui n'ont encore jamais été projetées puisque dans les premières semaines, on avait simplement montré les clichés des tueries sur les terrasses, plan large ou corps recouvert de couverture, mais aucune image du Bataclan pour ne pas choquer. Il y a eu un débat, il y a eu une demande de l'association de victimes Life for Paris. Le débat a été tranché hier et la Cour a décidé de montrer, comme devant n'importe quel procès d'assises, ces images qui seront forcément éprouvantes. Il y a d'ailleurs beaucoup de psychologues dans la salle et ces images vont être montrées, une quinzaine, une vingtaine d'images et puis des audios. D'abord, l'arrivée des terroristes, du commando de trois terroristes avec leur Kalachnikov dans la salle du Bataclan et puis un face à face entre un otage qui était dans le couloir et la police. Et enfin, l'assaut final, on va entendre ça dans les prochaines minutes à cette audience.
Alors une semaine, Sophie, marquée aussi par l'audition de Mohamed Abrini, qui a beaucoup parlé pour dédouaner Salah Abdeslam.
Oui, alors Mohamed Abrini, vous savez, c'est l'homme au chapeau des attentats de Bruxelles, c'est l'ami des frères Abdeslam. Il avait dit la semaine dernière qu'il avait des révélations à faire. Et ce qu'il a révélé, eh bien, c'est qu'il était donc programmé pour le soir des attentats et il a dit qu'il était parti dans la nuit qui a précédé, dans la nuit du 12 au 13 novembre et que cette nuit-là, eh bien, il avait décidé de renoncer à tuer et à mourir lui-même et qu'il avait donc renoncé à porter le gilet explosif. Il pensait qu'il aurait dû faire partie peut-être du commando des terrasses et qu'après son désistement, eh bien, le gilet a été donné au dernier moment à Salah Abdeslam. Alors ces révélations, il faut le dire, n'ont pas entièrement convaincu la salle d'audience.
Alors en revanche, Sophie, Salah Abdeslam qui s'exprime beaucoup depuis le début du procès est resté bien plus silencieux lors de l'examen des faits de la soirée du 13 novembre. Salah Abdeslam a exercé son droit au silence devant la cour.
Oui, c'était mercredi, jour de son interrogatoire, une journée particulièrement attendue parce que c'était la première fois qu'il devait être interrogé sur le soir du 13 novembre. Vous savez qu'il avait ce gilet explosif qu'il a jeté dans une poubelle de Montrouge. Vous savez que sa voiture, la voiture avec laquelle il l'a déposé, les terroristes au Stade de France, ensuite il l'a garé dans le 18e arrondissement de Paris et on ne sait pas ce qui était prévu dans le 18e arrondissement de Paris. Est-ce qu'il avait une cible? Alors il y avait toutes ces questions à poser à Salah Abdeslam et dès le début de l'audience, debout dans son box, avec son t-shirt noir, eh bien Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos, donc, a dit qu'il exerçait son droit au silence. Il y a eu une déception évidemment sur les bancs des victimes, on a entendu des hauts, des soupirs, il y a eu 2 heures de silence d'Abdeslam, qu'il regardait même pas en fait les magistrats qui lui posaient des questions, et puis un face-à-face étonnant, incroyable je dirais, même face à une avocate de victime, face à maître Claire Josserand-Schmidt, qui avec des questions très humaines a réussi à tendre un fil, et il a fini par lui répondre, il a fini par avouer que cette ceinture, s'il l'avait jeté, ce n'est pas parce qu'elle ne marchait pas, comme il l'avait dit à ses amis, mais qu'il avait renoncé lui-même et qu'il avait eu honte de l'avouer à ses amis. En tout cas, il n'a livré Abdeslam cette semaine que sa vérité.
Sophie Parmentier, merci avec Yves Lehors pour les moyens techniques. Ce procès du 13 novembre et les comptes rendus d'audience, bien sûr, à retrouver sur notre site franceinter.fr, mais également en vidéo sur les réseaux sociaux de France Inter. La politique et la campagne présidentielle à 9 jours du premier tour. Nathalie Arthaud était ce matin l'invitée du 7-9 de France Inter. La candidate de lutte ouvrière a reconnu qu'elle ne peut pas être élue sans bouillonnement social. Bonjour Julie Drouin.
Bonjour.
Et Nathalie Arthaud est restée fidèle à sa ligne politique.
Chez Lutte Ouvrière, c'est le peuple qui doit renverser la société capitaliste. Nathalie Arthaud appelle à une ébullition sociale par le biais de mobilisations massives ou d'une vague de grève pour changer cette société qui, selon elle, accroît les inégalités et condamne à la crise climatique et aux guerres. L'objectif de la candidate n'est pas de gagner cette présidentielle. Elle a recueilli moins de 1% des voix en 2012 et en 2017, mais plutôt de montrer qu'une autre voie existe. Et aux ouvriers qui se sont tournés vers le vote frontiste, à cet électorat qu'elle juge déboussolé, écœuré par les fausses promesses de la gauche au pouvoir, Nathalie Arthaud rappelle que Marine Le Pen a toujours défendu l'ordre social, la propriété privée et stigmatisé les travailleurs étrangers. Une politique de la division qui avantagerait les plus riches au pouvoir, déplore la candidate. La prof d'économie défend l'idée, comme d'autres, de la retraite à 60 ans, de la semaine à 32 heures, d'un SMIC à 2000 euros, là c'est la seule, mais pas question d'imaginer se désister ou d'appeler à un vote utile.
Julie Drouin, merci. La campagne côté vert maintenant. Yannick Jadot, le candidat écologiste, est lui revenu ce matin sur la hausse du prix de l'essence dont on parlait en début de journal. S'il est élu, Yannick Jadot mettra en place des transports en commun gratuits.
Je mets en place les transports en commun gratuits, les transports locaux, les TER, les bus. On met ça gratuit pendant 6 mois, compensé par l'État. C'est une mesure d'urgence pour favoriser les transports collectifs quand on peut utiliser des transports collectifs.
Semaine comme week-end, il n'y a pas d'horaire.
Absolument, ouais. Absolument. Deuxièmement, vous le savez que je porte un grand plan sur le covoiturage parce qu'il y a 43% des Françaises et des Français qui n'ont pas d'alternative à la voiture. Pour ça, à la fois, il y a la prise en charge par l'entreprise des frais de carburant. Mais souvent, le problème du covoiturage, c'est l'organisation des flux, c'est la logistique. Eh bien, vous avez des exemples aujourd'hui à Bourgoin-Jallieu, dans d'autres villes, où en fait, on met en place des lignes régulières de covoiturage. Vous arrivez sur votre parking covoiturage, vous attendez maximum 10 minutes en utilisant une appli, et il y a quelqu'un qui va vous emmener jusqu'à votre destination.
Yannick Jadot, ce matin, sur France Info. À l'extrême droite, Marine Le Pen, dans une dynamique favorable ces derniers jours dans les sondages, avec un écart qui se resserre avec Emmanuel Macron ces dernières semaines. Marine Le Pen est aujourd'hui en déplacement dans le Bas-Rhin et en Moselle, la candidate du Rassemblement National qui a mis le pouvoir d'achat au cœur de sa campagne, s'est rendue ce matin sur un marché d'Aguenau, dans le Bas-Rhin, une campagne dans des villes amies. Reportage, Élodie Forêt.
Encerclée par les journalistes et les militants, Marine Le Pen se ferait difficilement un chemin sous les yeux éberlués de Geneviève derrière son stand d'asperges.
Je croyais que c'était un canular ce matin, comme c'est le 1er avril, mais effectivement, non, elle est là et ça fait plaisir.
Des électeurs RN qui sentent monter l'espoir.
Madame Le Pen, j'espère que vous arrivez, Inch'Allah.
Nicolas, commerçant, prie pour que les Français donnent une chance à sa candidate.
C'est pas parce que son père, avec ce qu'il y a eu, avec les jugements, avec les trucs, il ne faut pas comparer cette femme à son père. Elle est complètement autrement que son père, on espère.
Lunettes, bonnet, Fabien lui aussi veut y croire, même s'il craint la rediabolisation de Marine Le Pen.
On l'a vu avec le président déjà, hein, qui parle des extrêmes droites, qui a un peu durci le ton. Quoi.
Emmanuel Macron qui a durci le ton et Marine Le Pen qui lui répond.
C'est assez lourdingue la manière dont tout ça est organisé. Je pense que lorsqu'on en est à utiliser cette stratégie éculée de la rediabolisation, c'est qu'on n'a rien à dire sur le fond. C'est le retour du vieux monde, le moins imaginatif, ça ne mènera pas très loin.
Et la candidate de l'affirmer, cette fois, je peux gagner.
Élodie Forêt, à gauche maintenant, Anne Hidalgo, la candidate socialiste, est aujourd'hui à Nantes et Saint-Nazaire aux côtés de Johanna Roland, maire de Nantes, et de l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Et face à cette question qui électrise la campagne, Marine Le Pen peut-elle remporter la présidentielle? Anne Hidalgo a pointé du doigt hier soir une responsabilité d'Emmanuel Macron dans la montée de Marine Le Pen et de l'extrême droite dans les sondages. Quand on fait en sorte que le paysage politique totalement explosé soit un paysage dans lequel il n'y aurait plus qu'un candidat qui serait soi-disant le candidat d'une forme de raison et en face l'extrême droite, eh bien on joue avec le feu et effectivement tout est possible, a déclaré Anne Hidalgo. L'épidémie de coronavirus avec 169 311 nouveaux cas hier. Le rebond de l'épidémie se poursuit en France. Contamination et hospitalisation sont en hausse et le taux d'incidence de l'épidémie s'établit désormais à 1400 cas pour 100 000 habitants au niveau national. Bonjour Hélène Chevalier.
Bonjour.
Comme toutes les semaines, Santé publique France a fait un point hebdomadaire avec notamment des régions plus touchés que d'autres.
Oui, car si le taux d'incidence est maintenant supérieur à 1000 dans toutes les régions, c'est toujours en Bretagne, Corse, dans le Grand Est et en Normandie qu'il est le plus élevé, mais d'autres régions pourraient les rejoindre, voire les dépasser. La semaine dernière, les contaminations, par exemple, augmentaient de près de 80% en Île-de-France. Toutes les tranches d'âge sont maintenant touchées, même si ce sont encore les 10-19 ans et les 40-49 ans qui restent les plus contaminés. Les nouvelles admissions en soins critiques augmentent, elles aussi, à nouveau, certes légèrement, plus 2%, mais ce n'était pas arrivé depuis 2 mois. Un peu plus de 1500 personnes covidées sont actuellement en réanimation. Une situation qualifiée de préoccupante par Santé publique France, d'autant qu'une autre épidémie a aussi décidé de s'inviter tardivement à l'hôpital. Les cas de grippe sont en effet en constante augmentation depuis plusieurs semaines, ce qui ajoute un fardeau supplémentaire aux services de santé. L'agence sanitaire rappelle que dans ce contexte de reprise de l'épidémie, les gestes barrières comme le port du masque sont essentiels pour limiter la propagation et protéger les plus fragiles.
Hélène Chevalier, merci. Les dons de moelle osseuse en hausse en 2021, mais les demandes et les greffes le sont également. L'agence de biométrie, de biomédecine, lance donc aujourd'hui une nouvelle campagne, essentiellement une campagne sur Internet, parce qu'il s'agit de rajeunir les personnes inscrites. Plus les donneurs sont jeunes, plus les chances de guérison sont importantes. Objectif également de cette campagne, masculiniser et diversifier pour répondre aux besoins de tous les malades. L'agence de biomédecine a enregistré une forte augmentation des pré-inscriptions après un appel de parents pour leurs enfants reliés sur les réseaux sociaux. Il y a actuellement 338 000 personnes inscrites sur le registre des donneurs. L'événement pour la planète foot aujourd'hui, c'est le tirage au sort pour le premier tour de la Coupe du Monde au Qatar. L'équipe de France, tenante du titre, sera fixée sur ses premiers adversaires à partir de ce soir 18h. Le compte à rebours à Doha est donc bien enclenché 234 jours avant le début de la Coupe du Monde, du 21 novembre au 18 décembre prochain. En direct de Doha au Qatar, on retrouve notre envoyé spécial, Emma Sarango. Bonjour Emma.
Bonjour.
Et le Qatar est fin prêt pour accueillir cette Coupe du Monde, la première en hiver, la première au Moyen-Orient.
Oui, en tout cas pour ce qui est lié directement au foot, là c'est impeccable. Les stades, on ne peut pas dire le contraire, sont magnifiques. L'architecture, les vestiaires et équipements pour les joueurs. Le métro aussi, qui rendrait jaloux tout Parisien, voire tout Européen. Le sol imitation parquet scintille, les bars brillent. Bref, c'est un décor parfait. Et c'est exactement ce que les organisateurs voulaient que l'on regarde.
Et le Qatar, Emma, pensait avoir tourné la page des polémiques entourant ce mondial, mais ces polémiques, elles refont surface, Emma, notamment autour des conditions de travail des ouvriers dans les stades.
Oui, ça c'est l'autre visage de ce mondial, ces ouvriers immigrés à chaque coin de rue sur les chantiers. Au micro, certains nous assurent qu'ils sont heureux ici, qu'ils peuvent envoyer une partie de leur salaire à leur famille restée au pays. D'autres, en aparté, nous confient vivre entassés dans des chambres insalubres et n'avoir aucun espoir de pouvoir retrouver un jour leurs proches. Alors bien sûr, ce mondial de foot a forcé le Qatar à évoluer. Il y a aujourd'hui un salaire minimum et désormais les travailleurs peuvent changer d'emploi ou quitter le pays sans l'autorisation de leur employeur. Ça n'est pas rien, c'est même inédit dans le Golfe, mais ça n'est pas appliqué partout. Et puis il y a ces décès sur les chantiers, les chiffres avancés ça et là sont contestés, mais la difficulté c'est surtout que si le lien entre la mort et le travail n'est pas reconnu par le gouvernement qatarien, eh bien les familles ne sont pas indemnisées et doivent s'endetter encore pour rapatrier le corps. Un sujet sur lequel les ONG comme Amnesty International tentent en vain d'alerter la FIFA.
Emma Sarango en direct de Doha au Qatar. Merci. Gisèle Hémy, je vous signale que France Inter et l'association Choisir la cause des femmes fondée par Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir proposent une soirée inédite et en public depuis le studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique pour rendre hommage à Gisèle Halimi et à ses engagements. Gisèle Halimi, une visionnaire, soirée hommage donc lundi 4 avril de 20h à 22h en direct et en public au studio 104 de la Maison de la Radio. La météo dans un instant.
Aujourd'hui sur France Inter, la survie des Sioux est dans Affaires Sensibles.
Fabrice Drouel.
Nous devons résister. Moi, je me battrai pour protéger l'eau et notre terre.
2017, États-Unis, les Sioux perdent leur bataille face à Donald Trump dans leur opposition à la construction d'un pipeline de gaz de schiste dans le Dakota.
Affaires Sensibles.
Du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h.
Podcasté et téléchargé sur l'application Radio France.
Le temps de ce jour.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles, Euromaster garantit la sécurité et la mobilité des conducteurs.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Frédéric, bonjour.
20 départements, hein, on l'a dit dans le journal, en vigilance orange, à la neige.
Oui, incursion hivernale remarquable aujourd'hui et demain qui contraste avec la douceur exceptionnelle qui régnait encore en début de semaine. La neige a donc refait son apparition dès la nuit dernière sur certains départements comme dans les Hauts-de-France, l'épisode est presque fini. Un manteau neigeux de 5 à 10 cm a quand même été observé par endroits à Vizernes, par exemple près de Saint-Omer. Sur d'autres départements, l'épisode va se poursuivre jusqu'à demain. Pour cet après-midi, des averses de neige sont surtout attendues sur l'ensemble des massifs dès les premières hauteurs. En plaine, on pourrait encore voir quelques flocons se mêler à la pluie sur la Normandie, le centre-Val de Loire, au nord de la Seine ou encore entre le Val-de-Saône et le Lyonnais, mais sans vraiment blanchir les routes. L'après-midi sera nettement plus lumineux sur le Cotentin et entre la Bretagne et le bassin aquitain, ainsi que sur les plaines du Languedoc et la Provence. Quelques averses sont quand même possibles cet après-midi et puis le vent sera bien soutenu. Le vent sera d'ailleurs bien sensible un peu partout aujourd'hui. Autour de la Méditerranée, les rafales pourront dépasser 80 à 100 km par heure. Ailleurs, prévoyez 50 à 70 km par heure. Évidemment, les températures sont plutôt fraîches, voire froides pour la saison. 3 degrés à Lille et Besançon cet après-midi, 4 degrés à Paris et à Grenoble, 6 degrés pour Caen et Strasbourg, 8 degrés à Toulouse et à Nantes, 9 degrés à Brest et à Perpignan, 12 degrés à Marseille. On ira quand même jusqu'à 17 degrés à Nice et à Bastia.
Sébastien Léas de Météo France, 13h30 sur France Inter.
France Inter, le 13-14, Frédéric Barrère.
On va aborder un sujet grave. C'est un interdit universel et les verrous sautent autour du tabou de l'inceste et des violences sexuelles sur mineurs. La commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, la CIVIS, a livré hier ses conclusions intermédiaires. C'est un rapport d'étape en vue d'améliorer la culture de la protection des mineurs. Cette commission, la CIVIS, a été lancée en janvier 2021 après la déflagration causée par l'ouvrage La famille agrandie de Camille Kouchner. La CIVIS, une instance indépendante présidée par deux acteurs de terrain. Édouard Durand, magistrat, ancien juge pour enfants, et vous avez, Édouard Durand, publié « Défendre les enfants », sorti mi-mars au Seuil. Bonjour monsieur.
Bonjour.
En ligne avec nous également, Nathalie Mathieu, coprésidente de cette commission. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes la directrice générale de l'association Docteur Bru et également de sa structure d'accueil de jeunes filles victimes d'inceste, ce qui est situé à Agen, dans le Lot-et-Garonne. Alors d'abord, le constat, si vous voulez bien, il y a chaque année 160 000 enfants victimes de violences sexuelles, le plus souvent dans le cercle familial. C'est un chiffre stupéfiant. Édouard Durand.
Oui, c'est un chiffre absolument considérable dont la société doit prendre la mesure. Le risque que nous courons n'est pas d'inventer des victimes, mais au contraire de laisser passer des enfants sous nos yeux sans les protéger. Il y a donc une urgence. Ces enfants existent, ce sont des enfants réels, ils sont victimes de viols et d'agressions sexuelles. Le devoir de tous est d'aller les chercher pour les mettre en sécurité.
Et alors, Nathalie Mathieu, je me tourne vers vous. On a aussi, selon les statistiques que vous donnez, un Français sur 10 qui a subi des violences sexuelles sur son enfance.
Oui, tout à fait. Et c'est ce qu'on remarque avec le lancement d'appels à témoignages que nous avons fait sous différentes formes, soit par une plateforme téléphonique, soit par écrit, et ainsi que les réunions publiques que nous organisons une fois par mois et les auditions individuelles, où les gens répondent massivement à cet appel à témoignage et viennent expliquer à quel point leur parcours de vie a été impacté par ces violences subies dans l'enfance.
Alors, premier axe de votre rapport d'étape, Édouard Durand, qui comporte 20 recommandations, c'est d'abord repérer les enfants victimes pour les mettre en sécurité. Comment on fait pour les repérer ?
L'agresseur a une stratégie, toujours la même, et dans cette stratégie, il y a imposer le secret à l'enfant, le réduire au silence. Si tu parles, je te tue, je fais exploser la famille, et de toute façon, personne ne te croira. Les enfants se dessinent souvent sans bouche, d'ailleurs, parce que parler, c'est interdit. L'agresseur a remplacé l'interdit de la violence par l'interdit de parler. Donc il ne faut pas attendre que l'enfant parle. Il faut lui parler, il faut aller chercher la révélation des violences. Il y a un moyen pour le faire, et un seul, c'est que tout professionnel travaillant avec des enfants pose à tous les enfants la question des violences subies. Est-ce que quelqu'un t'a déjà fait du mal? Est-ce que ça t'arrive d'avoir peur? Qu'est-ce qui te fait peur? Comment ça se passe à la maison? Si vous posez la question à l'enfant, d'une part il peut vous répondre, d'autre part, il sait qu'il peut vous faire confiance. Il sait que vous serez capable d'encaisser le choc. Parce que tous les enfants victimes de violences, qui devenus adultes, ont écrit, ont analysé leur parcours, l'ont dit, ce qui m'a empêché de parler, c'est la peur de ne pas être cru.
Alors, la peur de ne pas être cru, il y a aussi le fait que lorsqu'un enfant qui révèle qu'il a été victime d'inceste, 4 fois sur 10, vous notez que la personne à laquelle il se confie, son confident, ne fait rien. 4 fois sur 10. Là aussi, comment on peut faire évoluer?
La société fonctionne dans de multiples injonctions paradoxales à l'égard des enfants victimes eux-mêmes et à l'égard des adultes, parents ou professionnels protecteurs. Aux enfants, elle dit, vous pouvez parler, mais nous ne vous croirons pas. Aux mères protectrices dans les cas d'inceste paternel, elle dit « protégez vos enfants, mais si vous parlez, nous ne voulons pas entendre parler d'inceste, on dira que vous manipulez la justice ». Et aux adultes protecteurs professionnels, elle dit la même chose. C'est pour ça que les confidents, dans 4 cas sur 10, ne font rien. Il faut donc inspirer confiance aux professionnels et aux adultes protecteurs. C'est pour ça que nous disons pour les médecins, par exemple, il faut une obligation de signalement, et notre préconisation suivante est de dire « il faut protéger les médecins des poursuites disciplinaires ».
Alors justement, et là je me tourne vers Nathalie Mathieu, l'ordre des médecins n'est pas du tout favorable à cette préconisation dont vient de parler Édouard Durand. Ils ne veulent pas d'obligation pour signaler un enfant victime de violence ou soupçonner une personne victime d'inceste. Vous en pensez quoi de quelle est votre réaction vous à ce que vient de dire l'ordre des médecins?
Alors c'est une position qui est ancienne. Hein. Dès qu'on parle d'inceste, nous, notre association travaille depuis 25 ans sur le sujet. Ça fait 25 ans qu'on parle de ce problème de manque de dénonciation par le corps médical dans son ensemble, hein, pas seulement les médecins. On ne voit pas pourquoi ce serait la seule profession qui n'aurait pas cette obligation-là. Et puis c'est la profession qui a accès au corps de l'enfant, à l'intimité de la famille quand ils font des visites à domicile. Et je crois que c'est important que l'ensemble des professionnels, comme vient de le dire Édouard Durand, en contact avec les enfants, se mobilisent pour repérer les situations de violence sexuelle.
Édouard Durand, sur les témoignages, on va parler après des préconisations, ce que vous demandez, mais sur les témoignages que vous avez reçus en un peu plus d'un an, 11 400 témoignages, je crois qu'il y a une personne assez âgée qui vous a appelé et qui a souffert pendant 60 ans avant de s'exprimer. C'est ça?
Oui, absolument. Et cette personne n'est pas la seule. Les personnes sont des personnes adultes, parfois très âgées, 75 ans par exemple. Nous avons lancé l'appel à témoignages le 21 septembre dernier. Aujourd'hui, nous sommes en mars. En 6 mois, plus de 11 000 personnes nous ont fait confiance. C'est dire à quel point la commission répondait à un besoin. Et le 21 septembre, des centaines et des centaines de personnes appelaient notre plateforme téléphonique et disaient « J'ai attendu ce moment toute ma vie ». Moi, il y a plusieurs leçons que je tire. La première, c'est celle-ci. « J'ai attendu ce moment toute ma vie ». L'autre leçon extrêmement importante, c'est ce qu'on peut appeler le présent perpétuel de la souffrance. Non pas un mauvais souvenir, mais l'aujourd'hui du mal. Et la société a un devoir de réparation à cet égard.
Alors on va aller au standard où Martine nous appelle, médecin scolaire pendant 32 ans. Bonjour Martine.
Oui, bonjour.
Voilà, et vous regrettez la suppression des médecins et des infirmiers scolaires dans ce dossier-là.
Je regrette, oui. C'est-à-dire que je voulais surtout signaler que le recueil de la parole des enfants nécessite une formation très pointue. Parce que l'enfant... Effectivement, j'ai eu des enfants qui ont subi, que ce soit des incestes ou des maltraitances pendant très très longtemps, qui n'osaient rien dire et qui d'ailleurs n'étaient pas dénoncés effectivement par leur médecin traitant qui pourtant les voyait au domicile. Mais on me répondait, vous comprenez, si on se trompe, on est puni. Je leur ai toujours dit que non. Moi j'ai signalé, signalé, signalé. Mais si on n'est pas au plus près de l'enfant,
Il ne reste plus que l'enseignant pour recueillir une parole extrêmement difficile à recueillir et qui, eux, sont particulièrement vulnérables. Parce que c'est très, effectivement, c'est très, très difficile de faire un signalement sans pour autant être accusé quelqu'un. Il faut être formé. Et comme dans les écoles, moi, quand je suis partie, j'étais seule pour 10 000 élèves. Donc, les rapports.
On va vous répondre, Martine. Oui. Voilà. Parce que justement, la formation est l'un des axes de vos recommandations, hein.
Bien sûr, oui. C'est toujours très important. Vous savez, j'ai été professeur à l'École nationale de la magistrature. La formation de tous les professionnels en même temps est essentiel. Il faut que tous les professionnels dans la chaîne de protection montent en compétence en même temps. Et plus la société est exigeante à leur égard, plus elle doit le donner les outils et les moyens pour agir. C'est bien sûr une nécessité.
Alors il y a un témoignage que l'on a recueilli de Mélanie sur l'application France Inter. Je vous le lis et je m'adresse à vous, Nathalie Mathieu. Mélanie nous dit que ma fille a été agressée sexuellement par un cousin quand elle avait 9 ans. Elle a attendu d'avoir 12 ans pour nous le dire. Nous avons porté plainte. Elle a été entendue. Cela fait maintenant 3 ans et nous n'avons aucune nouvelle de la justice. Que peut-on faire? C'est vrai que, Nathalie Mathieu, le retour, les informations, les familles, les victimes ne sont pas toujours informées de ce qui se passe en justice.
Oui, alors déjà, c'est pas toujours très clair pour les parents de quelle est la procédure exactement, donc il y a quand même un effort de transparence et d'explication à faire de la part de la justice. Et effectivement, une de nos préconisations, c'est de systématiser la notification verbale des résultats et notamment des classements sans suite. Il y a parfois des mesures qui s'éternisent et la victime ne sait absolument pas quelle décision a été prise et en tout cas personne ne va l'informer de la décision prise, qui n'est absolument pas normale et qui poursuit aussi le traumatisme subi.
Oui, alors Edouard Durand, je voulais revenir sur les personnes en situation de handicap, les enfants en situation de handicap qui sont très nombreux, on en parle très peu.
Oui, c'est très important et c'est un des devoirs de la Commission d'attirer l'attention de la société sur la situation particulière des enfants handicapés. Les personnes adultes handicapées en situation de handicap sont nombreuses à avoir répondu à notre appel à témoignage et notamment à notre questionnaire. Ce qu'on sait, c'est que l'agresseur, dans sa stratégie, recherche toujours une proie vulnérable. L'enfant est une personne vulnérable. L'enfant handicapé est une personne
encore plus
vulnérable encore. Mmh. Ça, c'est la première chose, par ses difficultés d'expression, de motricité et ses fragilités qui sont liées au handicap. Et puis, il y a dans la situation particulière des enfants handicapés, un déni plus grand encore, un refus de voir, un refus de penser l'agression sexuelle et le viol contre un enfant handicapé. De sorte que, même, on va avoir tendance à interpréter les signes de la violence sexuelle subie comme une conséquence du handicap, donc à mal aiguiller la pensée et l'observation des professionnels. Il y a un grand chantier sur lequel la CIVISE est extrêmement attentive.
Alors dans votre rapport d'étape, Edouard Durand, il y a aussi des axes très importants qui sont aussi les soins à apporter le plus rapidement possible aux victimes et la réparation, et notamment la possibilité de faire appel lors d'un procès. Vous le mettez très en avant dans votre rapport d'étape,
oui.
Ce point-là.
Merci monsieur, ces deux points sont très importants à nos yeux. La question des soins d'abord, c'est une question de justice. Ces soins spécialisés en psychotrauma existent. Ne pas les donner aux enfants ou aux adultes qu'ils deviennent est une perte de chance inacceptable. La question est, voulons-nous que l'enfant victime puisse dormir ? Voulons-nous qu'il puisse apprendre à lire et à écrire ? Voulons-nous qu'il puisse avoir des relations et puis devenir adulte et avoir une vie relationnelle normale, comme vous et moi ? Eh bien, ces soins existent, mais ils ne sont pas suffisamment dispensés. C'est une urgence, ils doivent être dispensés très rapidement. Sinon, on ne peut plus que la vie durant de la victime que traiter les symptômes chronicisés. Ensuite, la place de la victime dans le procès pénal, c'est très important. Aujourd'hui, en l'état du droit, la place de la victime, elle est à l'écart, un peu à côté. Elle ne peut contester la décision qui la concerne que sur le plan de l'indemnisation. Mais qui est la première personne concernée par la déclaration de culpabilité de l'agresseur ? Par la peine ? Des victimes nous disent « Moi, j'ai pris perpétuité » et lui, il se promène dans la rue. La première personne concernée par le viol ou l'agression sexuelle, c'est la personne qui en est victime. Elle doit avoir le droit de contester la décision qui est rendue.
Nathalie Mathieu, une dernière question. J'ai noté dans votre rapport d'étape une phrase, c'est une réflexion, je crois, de l'un de vos témoignages, qui dit que, ben voilà, l'inceste, les violences sexuelles, c'est un, pour la victime, c'est un poison lent qui infuse sur leur vie et tout au long de leur vie. C'est ce qui ressort, c'est ce que vous avez noté.
De tous les témoignages que nous recevons, c'est vraiment ce que les personnes disent, c'est que c'est comme un bruit de fond permanent dans toute leur vie et ça va entraver leur vie d'adulte, aussi bien dans la vie sociale, la vie familiale, le travail, leur vie amoureuse, leur vie sexuelle. Et c'est pour ça qu'on a une préconisation aussi sur la réparation financière afin que ce préjudice qui dure toute la vie soit estimé à la hauteur de son impact.
Édouard Durand et Nathalie Mathieu qui étaient en ligne avec vous, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.
Merci.
France Inter, le 13-14.
Il est 13h44, dans 10 minutes, le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Frédéric.
Et aujourd'hui, l'écrivain américain Jack Kerouac, qui aurait eu 100 ans cette année.
Et au bout de sa route, il y avait la Bretagne.
Et avant cela, notre feuilleton, 5 Français dans la campagne aujourd'hui. Marie-Claudine Boucher-Pillon, elle est pharmacienne à la retraite dans la Nièvre. Mais tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Frédéric.
Et à une semaine du premier tour de la présidentielle, vous avez rencontré un candidat à l'Élysée.
Il s'appelle Pablo Mira. Et il présente ses différentes propositions comme les pizzas napolitaines de la démocratie. Il les expose dans un livre paru chez Flammarion, Pour une France plus mieux, laissez-moi être le moins pire des présidents. Et je lui ai tout d'abord demandé de m'expliquer ce titre, ce slogan de campagne.
C'est venu d'un constat et d'une envie. Les deux se sont articulés. Un constat, la France va mal. Une envie, on veut qu'elle aille moins mal, donc plus mieux, pour une France plus mieux. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas eu d'équipe marketing. C'est vraiment une pulsion, presque une pulsion de vie qui est née à l'intérieur de moi. Et c'est une vision pour la France.
C'est 125 propositions qu'on peut découvrir dans votre ouvrage, qui est donc un livre-programme. Elles n'ont strictement aucune cohérence et pourtant, on sent l'homme politique derrière.
On sent le passionné. Moi, ma promesse, elle est simple. Ça va pas être terrible si je suis élu président, si on applique ce programme. Mais peut-être que ce sera moins pire que ce qui est moins bien aujourd'hui. Donc plus mieux.
Il était une fois à l'entrée des artistes, un petit garçon blond au regard un peu triste. Il attendait de moi une phrase magique. Je lui dis simplement, si j'étais président, si j'étais président de la République, jamais plus un enfant n'aurait de pensée triste. Je nommerais bien sûr Mickey Premier ministre de mon gouvernement, si j'étais président. Simple et à la culture me semble une évidence. Tintin à la police et Picsou aux finances.
On en vient à cette chanson que vous avez choisi de nous faire écouter.
Oui.
Elle est bouleversante.
Oui.
Mais qu'est-ce qui vous a fait la choisir? Est-ce que cette chanson est un complément de votre programme politique?
Alors non. Pour moi, c'est le programme en opposition au mien. C'est un programme, pour le coup, totalement fantaisiste, sans aucun appui sur le réel. Moi, j'essaye de créer une différence politique vis-à-vis de Gérard Lenormand.
Qu'est-ce qui vous choque particulièrement dans les propositions qu'il développe dans cette chanson?
Oh, mais il y en a tellement, je ne sais pas si vous avez lu les paroles, mais il y a des choses folles. Il y a des conseils des ministres en pique-nique. On ne fait pas de conseils des ministres en pique-nique. Il faut une table, il faut du papier peint. Maille à l'abeille à l'industrie. Mais qui veut confier aujourd'hui, en 2022, alors qu'on a un tissu industriel qui est en train de s'effondrer, la réindustrialisation de notre pays à une abeille, au fait?
Tarzan à l'écologie.
Tarzan, son aptitude, c'est quoi? C'est se déplacer de liane en liane et parler avec les phacochères. Est-ce que c'est vraiment réaliste de confier à cette personne-là le problème du réchauffement climatique? Je vous pose la question.
On parle des fontaines.
À la police, il suggère de placer Tintin.
Alors pour le coup, Tintin, là encore. C'est-à-dire que Tintin passe quand même des albums et des albums à fuir la police. Dupont et Dupont. Et on voudrait mettre à la tête de la police quelqu'un qui a passé sa vie, sa carrière à la fuir. Un non-sens absolu.
Simplet à la culture.
Un attardé mental, réellement. Non mais on en est là, parce que Simplet, c'est une personne avec des déficiences mentales. Alors est-ce que c'est encore cette folie de l'inclusion ? Excusez-moi, mais pour moi la culture, et j'espère que ça vous parle ici dans la Maison Ronde, elle mérite peut-être mieux qu'une personne de petite taille un peu lente.
Je serai jamais président de la République. Vous les petits malins, vous êtes bien sympathiques. Mais ne comptez pas sur moi pour faire de la politique. Pas besoin d'être président pour aimer les enfants. La 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 la.
Alors j'avoue que les la 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 ne m'ont pas choqué.
La 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 la.
La la
la la la la la.
La 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 la.
La
la la la la la la la la
la.
Il me semble qu'il y en a. La 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 la.
La la la.
La la la. Oui, autant pour moi. Autant pour moi.
Si j'étais président de Gérard Lenormand, c'était donc Frédéric Lechoix, de l'humoriste Pablo Mira.
Dans le livre « Méchamment drôle pour une France plus mieux » vient donc de paraître chez Flammarion.
Merci Frédéric Pommier et à lundi.
À lundi.
La suite de notre feuilleton avec nos cinq Français dans la campagne et on retrouve Marie-Claudine Boucher-Pillon, elle est pharmacienne à la retraite dans la Nièvre et les conseillères municipales à Monsauch-les-Sétons, un ancien fief de François Mitterrand. Elle a même quitté le Parti Socialiste en 2017 et elle a voté pour Emmanuel Macron. Et cette année, comment va-t-elle se déterminer? Elle s'est confiée à Antoine Gignot.
Nous sommes près du barrage du lac des Sétons. Le lac des Sétons, c'est le cœur du Morvan, c'est le plus beau lac de Bourgogne, voire de France.
Sans aucun parti pris.
Sans aucun parti pris. Non, c'est vrai que c'est un site exceptionnel. Il est très beau parce qu'il est entouré que de forêts.
Et alors, vu d'ici, vu du Morvan, vous avez quel ressenti sur cette fin de campagne ? Vous m'avez dit la dernière fois, je suis prête à voter pour Christiane Taubira, et dans la foulée, Christiane Taubira a disparu.
Oui, j'étais très très déçue qu'elle n'obtienne pas ses 500 parrainages. C'est quelqu'un que j'admire et je pense qu'elle avait tout à fait sa place parmi les candidats retenus. J'ai vraiment regretté.
Ouais. Pour elle et pour vous
en tant que... Pour moi, parce que oui, au moins je savais pour qui voter au premier tour, alors que là, je suis dans l'interrogation totale. Et c'est vrai que cette dramatique guerre en Ukraine a complètement rebattu les cartes pour moi. Et ça permet de se rendre compte qu'il faut vraiment quelqu'un de fort à la tête de l'État. Et le président actuel a fait des choses positives, je le reconnais. Donc oui, je suis dans l'interrogation.
Ça veut dire qu'éventuellement, vous pourriez revoter pour Emmanuel Macron ?
Alors, si je considérais le vote utile, oui, je voterais directement pour Emmanuel Macron. Mais j'ai été déçue encore récemment. Là, par exemple, face à Vladimir Poutine, quand on l'a vu au bout d'une table de 10 mètres, c'était une humiliation totale. Et pourtant, il nous a fait croire. Ils avaient annoncé que, ouf, ça y est, il n'y aurait pas de guerre. Et 2 heures après, il envahissait l'Ukraine. Donc oui, je trouve qu'il s'est fait un peu rouler dans la farine. Et il n'a pas fait preuve de naïveté, mais je crois qu'il y a cru un peu trop vite.
Alors quand vous regardez la galaxie de gauche, enfin ce qu'il en reste, les derniers meetings, il y a eu des meetings qui ont rassemblé du monde, du côté de Yannick Jadot, du côté de Jean-Luc Mélenchon aussi, vous avez regardé ça un peu ?
Oui, j'ai vu que Yannick Jadot au Zénith, ça s'était pas mal passé. Ben Mélenchon, il fait du Mélenchon. Je pense qu'il se revoit en 2017 et qu'il a tous les espoirs d'arriver au second tour. Mais...
C'est une piste possible pour vous, ça, quand
non.
On vous parle de vote utile
Non. Moi, j'ai trop le souvenir quand il avait eu les problèmes avec la justice, la perquisition et tout. Il avait beau dire « La République, c'est moi », c'était pas un comportement républicain. Je ne peux pas aller vers les extrêmes, de toute façon. Bon, Yannick Jadot... Je sais que les enjeux écologiques sont tellement importants que finalement on n'en fait peut-être pas encore assez, mais le tout éolien ne convient pas forcément. Là encore, j'ai pas les solutions, ouais, parce que le nucléaire, on sait ce que ça vaut. Photovoltaïque, c'est pas non plus la panacée, donc c'est compliqué. Il n'y a pas une personnalité vraiment qui se détache et qui donne envie. Parti socialiste, j'ai l'impression que c'est chacun qui essaye de tirer un peu la couverture à lui pour réexister.
Je vous avais senti un peu plus confiante la dernière fois et là, presque désabusée de la politique.
Oui. Je trouve désespérant de savoir pour qui on ne veut pas voter et de ne pas savoir pour qui on va voter. Moi, je regrette qu'il n'y ait pas maintenant un candidat qui me donne vraiment envie de dire « Oui, j'y vais, je le soutiens, je milite. » C'est ça qui me désole.
Reportage Antoine Gignoux, réalisation Théo Raison.
France Inter, le 13-14.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire, l'écrivain américain Jack Kerouac est le sujet d'Intelligence Service demain samedi, l'auteur de Sur la route. Né en mars 1922, aurait 100 ans, mais dans la réalité, il est mort dès 1969, passablement abîmé par l'alcool et les substances diverses qu'il consommait sans modération. Et si une dernière destination le hantait, c'était la Bretagne, Jean.
Oui, vous savez que les Américains recherchent sans cesse des fragments de grandeur dans les débris de mémoire laissés par leurs ancêtres immigrés. Kerouac était issu d'une famille de Canadiens français passés aux États-Unis, et son père lui disait toujours de se rappeler qu'à la source il était breton, et son grand-père que l'aïeul était un gentilhomme qui aurait combattu aux côtés de Montcalm, gouverneur de la Nouvelle-France au XVIIIe siècle. Vous savez, on pense au capitaine Haddock évoquant dans ses rêves d'ivresse le chevalier de Haddock et son secret de la licorne, parce que il y avait évidemment dans la légende familiale des Kerouac pas mal d'alcool et un trésor.
Et dans les années 60, Kerouac se préoccupe de plus en plus de ses origines.
Bah oui, ça touche à la monomanie. Notez que de plus en plus mécontent de l'époque, il s'éloigne alors de ses amis avec qui il avait formé la Beat Generation. Il se veut d'une autre espèce. 1962, dans Big Sur, il médite face au Pacifique. « Mon nom est le brise de Kerouac. Je vais enfoncer mes dents saines d'anglo-saxon dans la chair pitoyable des poissons. Je ferai mieux de me souvenir que les poissons parlent breton. »
Mais il est temps pour lui de passer l'Atlantique en quête de l'ancêtre. C'est chose faite en 1965 dans un voyage aussi mémorable que désastreux.
Alors j'ai tenté de le raconter sans hésiter à mélanger les flacons, hein, je veux dire les sources. L'une d'elles, c'est pas la plus fiable, étant le livre qu'il en a tiré, Satori à Paris. Satori, en japonais, illumination au milieu de l'écriture spontanée. Arrivé à Paris, Kerouac passe chez l'éditeur qui a traduit Sur la route, Gallimard. Sa dégaine n'inspire pas confiance et les dames de la maison, bon chic, bon genre, n'auraient pas cru qu'il était lui. À la Bibliothèque nationale, ce sont les employés à la communication des livres qui lui disent que l'histoire généalogique de plusieurs maisons illustres de Bretagne qu'il demandait avait disparu des rayons. Il voulait se débarrasser sans doute d'un client un peu penché.
Il lui reste à aller à la source, même en Bretagne.
Alors, il va prendre le train à Montparnasse. À l'époque, il y a des compartiments. Alors, dans le sien, un prêtre en soutane, un soldat en uniforme, bon, deux dames et un ivrogne. Une bénédiction, il s'appelle Noblet. Alors, tous deux remontent sept voitures à la recherche du bar qu'ils auraient vidé si l'arrêt de Rennes n'était survenu. Le train se sépare en deux. Noblet suit son chemin en titubant. Il y a un auteur breton qui va reconstituer le voyage qu'il a fait jusque chez lui. Quant à Kerouac, il continue seul. Alors à l'époque, l'express n'est pas rapide, la nuit tombe, et Jack reluque de son œil Schlass, hein, c'est un mot de lui ça, les lumières éparses qui éclairent la mystérieuse campagne bretonne.
Et alors une fois parvenu à Brest,
Il se rend rue de Siam, chez un libraire qui s'appelle comme lui Le Brice. Alors l'adresse a pu lui être communiquée par un garçon de café dont il sifflait la bouteille de cognac. En tout cas, le libraire, qui est alité dans sa chambre, en fait monter une autre pour nourrir la conversation. Et au bout d'un moment, les deux hommes doivent convenir qu'ils ne sont pas parents. La fille du libraire n'en reviendra pas, Kerouac est venu ici. Alors, il songera à revenir en Bretagne plus tard, mais Il a, au moment de sa mort en 69, le billet en poche. Cet unique voyage brévissime a suffi à nourrir d'innombrables publications. Et puis, l'identité de l'ancêtre a fini par être établie. Un certain Le Bihan, qui ne s'appelait pas encore Kerouac, est en effet parti en Nouvelle-France au début des années 1720. Il y fut contraint pour avoir violé une fille. Certains parlent de vol plutôt que de viol. Son père, originaire de Huelguat, dans l'actuel Finistère, n'était pas noble, mais tout de même notaire royal. L'individu est devenu coureur des bois, et il est demeuré coureur de jupons. Ayant engrossé une très jeune fille, en Nouvelle-France, il dut l'épouser. Devant le notaire et devant le curé, il donna des prénoms différents, mais son nom était devenu Kervoax, soit Le Bihan, soit Le Brice de Kervoax. C'est lui la souche, et une plaque a été érigée par ses descendants indulgents pour ses frasques, en face de la forêt de Huelguat, où mourut mystérieusement un autre grand écrivain, Victor Segalen. La matière de Bretagne est inépuisable, Frédéric.
Samedi, Intelligence Service, consacré à Jacques Kerouac, Intelligence Service.
Avant votre journal.
Avant le 19h et après le 18h. Merci Jean Lebrun. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Frédéric.
Alors aujourd'hui, dans le club de la Terre au Carré.
On va parler de nos relations avec les autres animaux et puis on va faire un toxic tour.
À tout de suite.